France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Et nous ferons en sorte que cette Amérique reste grande. Oh oui, on va la rendre meilleure que jamais. Et c'est pour cela que ce soir, je me trouve devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat en tant que président des États-Unis.
C'était mardi à Orlando, en Floride. Donald Trump annonçait donc officiellement qu'il serait candidat à sa réélection. Un meeting devant plus de 20 000 militants chauffés à blanc. Est-ce que la présidentielle américaine de 2020 sera la répétition de celle de 2016, Gilles ?
Elle ne sera pas la répétition parce que les candidats démocrates seront... Ce ne sera pas Hillary Clinton, et c'est un élément très important. Et parce que Donald Trump est président sortant. Il n'est pas l'outsider sorti de nulle part auquel personne ne croyait. Donald Trump est dans la position classique du président américain à l'issue de son premier mandat qui cherche à se faire réélire. Et
la plupart réussissent d'ailleurs à se faire réélire à quelques exceptions, comme Carter par exemple, George Bush père.
Absolument, à quelques rares exceptions, donc ce qui fait qu'il est d'une certaine manière en position de force, mais c'est loin d'être vrai, d'être joué. Pour l'instant, il a réussi à éviter deux écueils auxquels sont traditionnellement confrontés les présidents dans une telle situation. Le premier, c'est de se défendre, c'est de penser à tort qu'on gagne une élection sur un bilan. Il a très peu parlé de son bilan. Et le deuxième, c'est d'attendre. Il n'a pas voulu, et c'est pour ça qu'il lance sa campagne, d'une certaine manière il ne l'a jamais arrêté, mais qu'il lance sa campagne aussitôt, on est très loin de l'élection, parce qu'il n'a pas voulu que les primaires démocrates occupent tout l'agenda.
Et les primaires démocrates qui devront normalement aboutir à la désignation d'un candidat dans un an et demi, donc il a quand même un long chemin à faire tout seul, Natacha.
Oui, mais premier point, en effet, là où Gilles a raison, Donald Trump est à l'aise en campagne, il n'est jamais plus à l'aise qu'en campagne. Deuxième point, même si on ne gagne pas une élection sur un bilan, l'économie américaine se porte bien et Donald Trump, de ce point de vue-là, peut se prévaloir de promesses qu'il aurait tenues. Et troisième point, et à mon avis, c'est sans doute le plus important, la question de savoir si les démocrates ont tiré la leçon de l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'ils vont reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire se focaliser sur un discours sectoriel à des minorités précises, minorités ethniques, minorités sexuelles, minorités religieuses, ou est-ce qu'ils vont être capables de produire un projet pour une communauté nationale ? Ce que Hillary Clinton avait échoué à faire, qu'elle n'avait même pas cherché à faire. Or là, justement, la façon dont vont se passer les primaires démocrates va nous donner un petit peu le ton. Pour l'instant, ce qui se dessine, c'est que certains n'ont absolument pas compris et continuent à être dans une forme de, on va dire, d'obsession sociétale au lieu de comprendre comment contrer Donald Trump sur les sujets qui sont les sujets économiques, qui sont les sujets géopolitiques. Et deuxième aspect qui les obsède, l'impeachment face à Donald Trump. Et là encore, ce n'est sans doute pas la meilleure façon de conquérir le peuple américain.
Gilles.
Oui. Premier point, Donald Trump à l'aise en campagne. Souvent, on voit qu'il y a une dissociation entre la conquête et l'exercice du pouvoir. Pour résoudre cette contradiction, il y a un certain nombre de responsables politiques vertueux qui essayent d'être aussi responsables dans la conquête qu'ils le seraient dans l'exercice. Donald Trump, c'est exactement le contraire. Il est aussi irresponsable dans l'exercice qu'il est dans la conquête. Donc, il y a une grande continuité. Deuxième point, l'économie, vous avez raison de le dire, c'est souvent un élément déterminant aux États-Unis, savoir quel est le taux de croissance, quel est le taux de chômage. Là, à 18 mois de l'élection, position de force. Mais c'est fragile parce que la difficulté, le risque qu'a pris Donald Trump, c'est que il y a une politique qui est très, très laxiste sur le plan budgétaire. Le jour où ça se retourne, on ne sait pas comment.
Alors,
ça se passe.
Alors comment expliquer
Dernier point, peut-être les démocrates.
Oui, justement, ils sont 21 candidats à la candidature.
Ils sont 21 avec un favori, malgré tout, qui est loin devant les autres, qui est Joe Biden. Joe Biden,
ancien vice-président de Barack Obama.
Beaucoup des défauts, des faiblesses que pointait Natacha. D'abord, il est vieux. Il aura 78 ans s'il prend ses fonctions au début 21. Il est usé. Il a été élu pour la première fois quand Nixon était président des États-Unis et il est assez daté, c'est-à-dire que daté notamment sur le plan stratégique, c'est-à-dire de la vieille technique de triangulation des démocrates américains, disant qu'il faut être assez conservateur sur les questions de société et assez libéraux sur les questions économiques. Il n'est pas sûr que le centre de gravité du pays soit aujourd'hui celui-là.
Et pourtant, Donald Trump est donné perdant par tous les sondages, quelle que soit la fiche démocrate, en tout cas face à toutes les têtes d'affiche, Joe Biden, Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Il serait battu à tous les coups, c'est assez curieux et plutôt difficile à analyser vu d'ici.
Oui,
Natacha.
Non, d'abord, il faut se souvenir que Donald Trump avait moins de voix qu'Hillary Clinton. Il a simplement, pour être élu, ciblé les États où il fallait qu'il arrive en tête. Et nous avons trop tendance...
D'où la Floride.
Nous avons trop tendance ici en France à croire que le président des États-Unis est élu au suffrage universel direct. Non, pas du tout. Et ça implique une modification complète de la façon de faire campagne. Deuxième point, en effet, il est donné perdant pour l'instant, mais il n'était pas donné gagnant. La première fois, il a surpris et il faut se méfier. Il faut se méfier de l'habitude qu'ont les médias et parfois les instituts de sondage de prendre leurs rêves pour des réalités, c'est-à-dire de croire que parce qu'ils ne veulent pas de Donald Trump, forcément, celui-ci va être perdant.
En tout cas, la course à la présidentielle américaine de 2020 est lancée. À suivre, on revient en France.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est un moment de cohésion. Moi, depuis trois jours, je suis allé à la rencontre des jeunes. Je suis allé dans le centre du Nord, du Cher, de l'Eure. Je serai dans le Val d'Oise aujourd'hui, dans le Morbihan et dans le Vaucluse en fin de semaine. Et ce que je constate, c'est que on a des jeunes qui sont venus à la recherche de partage avec des jeunes qui viennent d'horizons sociaux, d'horizons géographiques totalement différents.
Gabriel Attal, le Benjamin du gouvernement, secrétaire d'État en charge du SNU. Et c'est parti, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Le service national universel se profile. Une phase pilote était donc lancée cette semaine avec 2000 jeunes. À terme, le SNU sera obligatoire pour tous les jeunes Français de 16 ans, obligatoire au moins pour un mois. Une autre partie sera facultative pour ceux qui souhaitent s'engager, par exemple, dans une association, une ONG. Curieusement, le SNU est déjà sous le feu des critiques, Natacha. Pourquoi ? Parce qu'il ressemblerait trop à une sorte de service militaire light ?
Il est sous le feu des critiques depuis que l'idée a été lancée, et alors même qu'elle était à l'époque totalement floue. Il y a ceux qui, en effet, estiment que le fait même de mettre des jeunes gens en uniforme est déjà crypto-fasciste. Et puis, il y a ceux qui considèrent que c'est pas en réunissant des jeunes pendant un mois, en leur produisant une sorte de catéchisme républicain assez gentil, qu'on va régler les problèmes de cohésion nationale et la façon dont on peut forger une communauté.
Quand vous dites certains, vous comptez parmi eux ?
Non, disons que je pense qu'il doit y avoir une voie médiane entre les deux. Et qu'il y a évidemment des défauts absolument majeurs dans la façon dont est organisé ce service national universel. Et on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord, d'ailleurs, sur la question de savoir s'il était regrettable d'avoir abandonné un véritable versant militaire ou pas. Je pense qu'il y a des questions extrêmement vastes là-dedans et qu'il faudrait prendre point par point.
Gilles ?
Oui, moi, je suis très sceptique sur le service national universel. Je crois que l'intuition ou l'intention de départ était juste le constat qu'il y a une perte du commun, qu'on est dans une société plus individualisée, plus archipélisée, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, et qu'une des explications peut trouver sa source dans la suppression du service militaire. Peut-être. La question, c'est est-ce que les moyens qui ont été choisis sont les meilleurs ? Je pense pour le commun, pour recréer du commun, c'est l'école, d'abord l'école. Et si on veut recréer de l'engagement, il y a quelque chose qui marche formidablement bien, qui s'appelle le service civique, qui s'est développé...
Qui existe déjà depuis quelques années.
Qui a été créé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui s'est beaucoup développé sous le quinquennat de François Hollande. Il y a aujourd'hui plus de 120 000 chaque année en service civique. Si on a de l'argent à mettre, parce que tout ça va coûter 1,5 milliard, peut-être davantage, je crois que c'est d'abord sur l'école et sur le service civique qu'il aurait fallu le faire.
Natacha ?
Alors, encore faut-il en effet que nous acceptions l'idée que l'école est là pour forger le creuset de la nation, en plus d'émanciper les citoyens par le savoir. Ce qui, pour l'instant, et depuis des années, n'est pas exactement l'orientation qui est prise. Donc déjà, en effet, il faudrait se pencher sur cette question-là. Après, sur la question du service civique, le problème, c'est que le service civique est volontaire. Et le nœud principal, c'est de savoir si la collectivité est capable, à un moment donné, de demander aux individus de donner de leur temps et que les individus comprennent qu'ils se doivent à cette collectivité. C'est tout l'enjeu. Or, je pense, pour ma part, qu'il est nécessaire que cette initiative soit obligatoire pour nous rappeler que nous avons des devoirs envers les autres.
Et que ça dure un mois, pour le coup.
En revanche, après, j'évoquais la question de savoir s'il fallait repenser un service avec une dimension militaire ou pas. En tout cas, je crois que tout le débat, c'est de savoir si nous ne devons pas aussi avoir une dimension de défense civile. C'est-à-dire que dans le fait de créer des devoirs envers la collectivité, il y a aussi la question de savoir ce qu'on est prêt à défendre et comment on veut le défendre. Donc je regrette, moi, que cette dimension-là ait été quand même largement abandonnée.
Encore un mot, Gilles ?
Encore un mot. Ça dure un mois. En réalité, ça dure 15 jours pour la partie qui se fait vraiment en collectivité, voire un peu moins de 15 jours. Franchement, qui peut penser que cela va avoir un effet réel? Le service civique, il est facultatif. Il ne tient qu'aux moyens qu'on y met, à la volonté qu'on y met de faire en sorte qu'il soit davantage développé. Et on peut même réfléchir, il y a eu le débat dans le quinquennat précédent pour savoir si ce service civique doit être obligatoire ou pas. Mais à la fois dans l'intérêt pour la société et dans l'intérêt pour les jeunes qui y participent, je crois qu'il n'y a pas photo.
Non mais je suis entièrement d'accord, Gilles. Encore fallait-il s'entendre, en effet, sur l'idée de rendre obligatoire le service civique. Or, souvenez-vous, systématiquement, quand on a évoqué ce genre de choses, on avait des levées de boucliers, notamment des syndicats étudiants, des syndicats de lycéens, disant mais c'est un scandale d'obliger les jeunes. Et pourquoi ce serait les jeunes? Parce que les jeunes sont des futurs adultes, tout simplement. Mais ça, c'est un discours qui est visiblement assez compliqué à tenir et c'est bien dommage. En effet, le service civique est une très bonne initiative, mais pour l'instant, ceux qui s'y engagent sont, j'allais dire, ceux qui sont déjà intégrés, ceux qui en auraient le moins besoin. Alors, il y a des très grandes réussites, mais le fait que ce soit obligatoire permet de récupérer tout le monde, permet d'intégrer, d'insérer tout le monde.
Pourquoi non, Gilles ?
Non, parce que je suis allé à l'Institut du service civique il y a un an, voir une formation complète des jeunes qui étaient en service civique. La diversité est très importante. Et pour beaucoup de jeunes issus des milieux populaires, c'est un vrai marchepied. C'est à la fois la discipline qu'on peut retrouver dans un service classique, mais c'est aussi le fait de s'intégrer dans un collectif et de faire des choses et de faire des choses.
C'est ceux qui veulent déjà s'intégrer, qu'ils soient issus de milieux populaires ou pas. La question, c'est comment on fait pour faire passer le message à des jeunes gens que nous avons tous vocation à nous intégrer, que la République n'oublie personne et que eux aussi doivent vouloir s'intégrer à cette communauté nationale. Et ça, il n'y a rien de plus complexe. Donc bien sûr que je crois que ça passe par l'obligation pour tous.
L'uniforme vous séduit ?
Non, l'uniforme ne me séduit pas. Enfin, c'est pas une question de séduction. C'est que je pense que l'uniforme, là aussi, n'a rien de... Enfin, c'est pas pour écraser les individualités. C'est pour faire comprendre que nous avons quelque chose en commun et pour faire comprendre, c'est souvent le débat qu'on a sur la question du vêtement commun à l'école, c'est pour faire comprendre qu'on se distingue par son esprit et pas par son apparence.
Oui, sur l'uniforme d'un mot, quand le service militaire, enfin la dimension militaire,
ça ne vous a pas donné envie d'aller en acheter un et de le porter.
Il y a un uniforme, non, pas encore. Allez, donc il y a une dimension militaire. Évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que qui est en charge du service national universel, ce n'est pas la défense.
Ce n'est pas la défense,
c'est le ministère de la Jeunesse, et ce n'est pas la défense précisément parce que la défense n'envoie pas. L'utilité n'a plus les locaux, n'a plus les moyens.
Dans l'état actuel, non, c'est vrai.
Et donc, voilà, c'est un ersatz, un petit, pour l'instant, un petit bout de truc.
Ils n'ont pas vocation à organiser des colonies de vacances et ils n'ont aucune envie d'être les seuls à supporter le fait qu'il y a une carence d'intégration dans la communauté nationale.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Ça a fait beaucoup rire, ça a fait rire les humoristes de France Inter, mais ça a fait rire aussi dans ce studio, parce que c'est sans doute l'un des plus beaux lapsus politiques de l'année, l'un des plus beaux lapsus politiques tout court, je pense.
C'est terrible.
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui présentait cette semaine les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage. Bon, ça nous fait sourire, mais le reste, pour le coup,
ça s'appelle est moins le drôle. Retour du refoulé. C'est oui. bien le problème.
Le lapsus est-il révélateur ?
C'est toute la question. C'est toute la question. Et de fait, cette réforme, même s'il y a des dimensions qui peuvent être tout à fait nécessaires, a un axe qui est un axe très frappant, qui est en gros l'individualisation de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on fait porter sur chaque individu le fait de savoir s'il a été suffisamment actif ou pas pour s'en sortir. Derrière ça, il y a une logique très terrible.
Juste rapidement pour préciser les choses, la ministre du Travail présentait sa réforme en deux volets. Le premier volet avec de nouveaux droits à la formation, une assurance chômage qui serait ouverte aux salariés qui démissionnent. Deuxième volet, un régime d'indemnisation qui sera durci avec un objectif qui est clair et net, c'est faire des économies drastiques, Gilles.
Oui. La semaine dernière,
tous les syndicats s'y opposent.
Absolument. La
semaine dernière, et même le MEDEF.
Absolument. La semaine dernière, j'avais été assez positif sur le discours d'Emmanuel Macron à l'OIT et même attentiste sur un certain nombre de réformes sociales, la réforme des retraites ou le revenu universel. Là, j'ai été critique sur le service national universel et je le suis davantage encore sur l'assurance chômage. Qui est la volonté de réduire les déficits ? On a l'ensemble des comptes sociaux qui sont en difficulté et davantage en difficulté que ce que l'on escomptait. Ça me paraît légitime. En revanche, dans cette affaire, la démocratie sociale a été malmenée, c'est-à-dire que on a ouvert des négociations, mais avec une lettre de cadrage du président de la République qui rendait l'aboutissement de cette négociation absolument illusoire, et on a un équilibre politique qui est un déséquilibre politique dans la continuité de ce que l'on a vu. C'est-à-dire que, vous disiez, c'était du « en même temps », la jambe gauche est quand même assez atrophiée, dans la mesure où l'ouverture des droits pour les démissionnaires, elle est quand même très restreinte, dans la mesure où le bonus-malus est très limité, il est limité à un certain nombre de secteurs, et que dans l'autre sens, la jambe droite, elle est très musclée, et notamment sur un point, c'est que l'entrée dans le régime de l'indemnisation du chômage, notamment pour les jeunes, notamment pour les plus précaires, a été considérablement durci. C'est d'abord eux qui vont supporter la réduction du déficit de l'assurance chômage.
La dimension que vous évoquez, Gilles, est tout à fait juste, en particulier sur la question de cette fameuse protection des démissionnaires. C'est-à-dire, il faut se souvenir que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et une promesse qui a fait partie de celle qui était emblématique du macronisme. C'est-à-dire qu'il y avait ce message adressé aux citoyens qu'on allait ouvrir des droits supplémentaires et qu'on allait modifier totalement la logique de l'indemnisation par ces réformes, mais dans le sens aussi d'une sécurité, dans le sens d'un dynamisme. C'est-à-dire, et je pense que ça fait partie des promesses avec la question de la taxe d'habitation qui ont emporté le morceau, qui ont poussé des gens à voter pour Emmanuel Macron. Qu'ils ne tiennent pas cette promesse-là me semble très grave.
Sur la méthode, Gilles, ce qui est assez frappant, c'est de voir que le gouvernement peut passer outre l'opposition d'absolument tous les syndicats. La réforme passera.
La réforme passera. Pour le coup, il y a une grande cohérence d'Emmanuel Macron sur cette question. Il considère depuis de très nombreuses années, y compris il l'avait dit lorsqu'il était ministre de l'économie, que l'assurance chômage, c'est l'État qui en est le garant en dernier ressort, et que c'est à l'État de gérer et que c'est pas aux partenaires sociaux. Donc, on arrive exactement au point où il voulait qu'on arrive. Tout le monde, tous les syndicats, patronaux et syndicats, et salariés sont contre la réforme. La question est de savoir quelle est l'opinion de l'opinion. Et pour l'instant, l'opinion est avec lui. La question, c'est quand les détails de la réforme, et notamment ce durcissement pour les plus fragiles sera davantage connu. Est-ce que cette opinion est stabilisée ou pas?
Oui, un mot d'attache avant de passer au débat.
Ceux qui sont contre cette réforme ne le sont pas tous pour les mêmes raisons. Parce que si vous regardez par exemple les petits patrons indépendants, artisans, commerçants, en fait, le point essentiel qu'ils réclamaient, c'était justement cet allongement de la durée qu'il faut avoir cotisé pour pouvoir obtenir des droits. Il y a un léger allongement, mais ils jugent, eux, que c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que beaucoup estiment qu'ils sont confrontés à des salariés qui viennent, qui rechargent leurs droits pendant 4 mois, et puis qui démissionnent, s'en vont du jour au lendemain pour profiter de ces droits rechargés. Et c'est vrai que c'est un problème majeur. La question est de savoir comment on règle ce problème sans pour autant fragiliser les plus faibles.
Oui, en fait, la question de fond qu'il y a derrière toute cette réforme, c'est est-ce que les chômeurs, massivement, dans leur majorité, dans leur immense majorité, abusent du système ou pas? Qu'il y en ait une minorité qui le fasse, non seulement c'est possible, mais c'est sans doute le cas, et il faut lutter. Le risque, c'est que
on considère
que le chômage, c'est un choix, et c'est là qu'est le problème.